tu sais d'où ça vient?
Ça vient du 4-5!
88.3!
Pas du campus, c'est autre chose que n'importe Nawak.
One, two, three, four!
One, two, three, four!
Hey, oh, let's go!
Rock and roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Rockologie.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Rockologie qui est passée sur un format mensuel. Cette année, cette nouvelle saison qui va démarrer aujourd'hui jusqu'en juillet 2027 va s'attacher justement à recouvrir et puis traiter de la scène psychédélique anglaise. Donc chaque mois, je ferai un classement, on va dire, alphabétique. Et aujourd'hui, nous allons traiter le cas des groupes en A et en B, avec pour commencer un groupe à l'existence éphémère, Aardvark, qui avait sorti en 70 un unique album à la saveur, on va dire, très très vie, avec justement comme particularité le remplacement de l'orgue Hammond par les guitares, enfin plutôt l'inverse, plutôt les guitares qui avaient été remplacées par l'orgue Hammond pour en faire un instrument de premier plan dans cette formation. Et le titre s'appelle Copper Sunset. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h de Sérocologie, l'émission à remonter l'histoire du rock de Radio Campus Orléans 88.3.
We'll be right back.
accente dans la, à l'instant dans l'émission Rockologie, l'émission à remonter l'histoire du rock qui, durant cette nouvelle saison, on l'avait dit en début d'émission, traitera du cas du, de la scène psychédélique anglaise, grosso modo entre 67 et 71. Avec un traitement alphabétique, ça va de soi. Puis à l'instant, c'était au rayon A, le groupe Accent, comme ça se prononce, deux singles chez Derham Records, dont ce classique qui est considéré comme un des plus beaux, manifestes du freak beat. Alors freak beat, c'est une sous-étiquette de la pop anglo-saxonne à dimension psychédélique. Freak, c'est un plus ou moins le rythme des frics. Les frics étaient bien entendu les jeunes gens qui étaient un petit peu marginaux et qui s'habillaient d'une manière un petit peu, on va dire, pas des beatniks, hein, pour la faire courte. Et les Accents, donc avec ce Red Sky at Night en 67, ont réussi la double prouesse de graver deux singles pour Derham. Couplé avec Wind of Change. Alors Red Sky, il y a une petite anecdote qui est marrante à raconter, et ni plus ni moins qu'une réponse à la devise des créations qui était With a Purple Sky, un truc comme ça, quoi. Donc voilà, les créations qui seront bien entendu au menu de la prochaine émission dans un mois tout pile. On va repartir avec un autre groupe qui lui est beaucoup plus, on va dire, usité et puis cité dans la dimension et le microcosme des amateurs du psychédélisme anglais, c'est les Attack. Alors pour deux raisons notables. La présence en premier lieu de John Duncan, qui est un des plus gros, on va dire, guitaristes de sa génération, au même titre que l'était Jimmy Page. Un jeu caractéristique et puis surtout capable de tutoyer les génies qui étaient Jimi Hendrix et puis Jimmy Page, ça va de soi. Deux singles chez Derham, dont ce Magic in the Air. Et nous, on va écouter Strange House. Alors toujours dans la même thématique, une musique assez lourde, pétrie par des effets sonores et beaucoup de distorsion. C'était un peu la marque de fabrique de cette scène anglo-saxonne, qui, rappelons-le, était un petit peu régie par les modes qui étaient faites et défaites par les Beatles, qui étaient prêts, malheureusement ou heureusement, comme référence par la presse locale. Bien que, de mon point de vue, les Beatles n'avaient certainement pas les mêmes arguments que tous ces groupes à l'existence éphémère, d'un point de vue technique et puis originalité.
suspended in midair, with no springs, not even any legs. So I laid my head down, went to sleep, hoping I would disappear. It was strange. In his house, I'm back riding in the sky, near my home, I hope that I become awake when I arrive, hoping that this dream has died. If it don't, I know that I will have no peace until I die.
Voici donc un superbe exemple de ce que pouvait aussi représenter le psychédélisme à l'anglaise avec cette enveloppe très soul dans la manière de chanter qui n'est pas sans rappeler le classique de Procol Harum, Whiter Shade of Pale. Là, c'était Phelius Andromeda, ou plutôt Andromeda, un groupe pionnier dans le genre, puisque au travers de John Buchan, qu'on avait écouté avec les attaques, ils vont attaquer vraiment un versant un peu plus doom, et puis un petit peu préfigurer ce qu'on peut appeler le heavy metal. Andromeda, qui sera un groupe évidemment charnière, avant que John Buchan récupère Carl Palmer et Vassar Crane, qui étaient deux membres du Crazy World of Arthur Brown, un autre grand nom du psychédélisme anglais, un peu plus pompeux et puis surtout orienté théâtre, avec justement Arthur Brown qui n'hésitait pas à se peinturlurer le visage et puis incarner des personnages complètement grandiloquents sur scène. Donc Phelius Andromeda, ou c'était plutôt Andromeda, était propriétaire d'un unique single sous son patronyme chez Deram, Méditation, avant de sortir quelques mois plus tard un album qui est lui aussi classé parmi les classiques du rock psyché, de la pop psyché pour être plus précise, anglaise. Ars Achel, un autre grand nom tout droit sorti du chapeau du label de Dave Stewart et puis Stevie Lage. Dave Stewart, le futur guitariste de Eurythmics, et Stevie Lage, le fameux sonorisateur de Gong, le groupe qui allait donner un sens assez, on va dire, certain au rock, space rock des années 70. Ars Achel, c'est plutôt, on veut dire, un psychédélisme planant, pour faire la transition parfaite avec ce titre de Phelius Andromeda. On va écouter Garden of Earthy Delight.
And would you see my lady's face? It is a flowery garden place where nuts of beauty have such that all is work and no escape.
Is a sweet, delicious morn where day is breeding, never born. It is a meadow yet unshorn which thousand flowers do adore.
It is the heaven's bright reflex, weak eyes to dazzle and to vex. It is the idea of her sex whose envy does the world perplex.
It is a sweet, delicious morn where day is breeding, never born. It is a meadow yet unshorn which thousand flowers do adore.
It is the outward face of youth. It is the famed Elysium's truth. The spring that wintered hearts renews, and this is that my soul pursues.
Thank you. shadows dancing round my head, rejoicing to the waking of the dead. To have seen you goodbye.
Goodbye!
Ten tin soldiers, they mime in tune with the madmen waiting for a full moon. How do you do? It's not nice to see you. Nice to have seen you goodbye.
Encore un groupe à l'existence plus qu'éphémère, puisqu'il existe, à ma connaissance, qu'un seul single qui est disponible de ce groupe charnière, ou plutôt intermédiaire, puisque c'était la version Post-Tomorrow, qui est un des grands noms du psychédélisme anglo-saxon, enfin pour ce qui est de la période du swinging London, à peu près entre 67 et 68, Tomorrow, qui était le groupe de Keith West et puis Steve O, qu'on a retrouvé sur la décennie suivante en train de jouer de la guitare chez Yes, pour un côté beaucoup plus, on va dire, progressif, moins enjolivé et puis surtout beaucoup plus technique. Là, Tomorrow, c'est un unique album qui était sorti en 68, qui avait été produit par le producteur franco-allemand Mark P. Ritz, qui peut être considéré, mais vraiment tiré d'une manière, on va dire, très succincte, comme un des équivalents à Brian Wilson, quoique c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Mark Ritz a donc produit cet unique album de Tomorrow, et puis ce single de Aquarian Age, dans lequel vous pouvez y retrouver Twink, qui allait intégrer les semaines suivantes Pretty Things pour deux albums, on va dire, charnière puis classique de la période, à savoir le SF Sorrow, qui sera considéré comme le premier opéra rock par les spécialistes, et puis surtout celui que j'aime bien des Pretty Things, Emotion, pour ce côté vraiment très orchestré et très pop, très sucré. Et puis de l'autre côté, il y avait bien entendu Steve O, je l'avais dit. Le titre quant à lui s'appelle 10,000 Words in a Cardboard Box. Voilà. On va continuer avec un groupe qui lui venait de Birmingham, ou plutôt du côté du nord, Newcastle je pense, Arts, qui lui aussi était un groupe charnière, a coincé entre les VIP, qui était un petit peu une réponse du Nord au rhythm and blues sauvage des Small Faces, et puis surtout et puis derrière il y avait les, non, juste après il y avait bien entendu les Spooky Tooth, le groupe de Mike Harrison, un des grands noms de la, une des grandes, grandes voix du rock anglo-saxon du début des années 70. Art, c'est un album, unique album qui est sorti chez Island Records, produit pour la petite histoire par Guy Stevens, qui était un DJ acquis à la cause moderniste et surtout un brillant arrangeur et puis producteur qui n'hésitait pas, un petit peu à la manière de Phil Spector, de bras qui est une arme sur un musicien, on va dire, inconvenant, pour qui donne le meilleur de son art. Et puis surtout, voilà, il avait une manière bien à lui de manager ses musiciens art. Donc, ce qui donne une œuvre assez, on va dire, violente dans sa forme, quelque chose d'assez brut, très, très accrocheur, très rhythm and blues, avec ses attraits psychédéliques et puis ses pédales de distorsion. On va écouter I Think I'm Going Wild, puis derrière on enchaînera avec un extrait du premier album de Blonde on Blonde, qui lui aussi était un second couteau, bien que la musique était d'excellente facture et qu'avec leur titre Spinning Wheel, n'hésitez pas à incorporer dans leur musique des éléments de la musique indienne.
The year
by
Bone on Bone avec son titre conçu comme un raga indien, Spinning Wheels. Une petite précision concernant l'album de Heart qui précédait les Blood and Blood. Supernatural Fairy Tale avait une double particularité, c'est que dans le track listing figurait en single, bien entendu, le classique du Buffalo Springfield, What That Sound for What It's Worth, ce qui avait donné peut-être... l'idée de Guy Stevens de promouvoir le groupe comme étant, on va dire, la réponse, même si c'était un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, au country rock de la formation de Los Angeles, qui était celle de Neil Young et puis Stephen Stills. Mais c'était aussi une volonté de donner une existence... une existence commerciale et puis une crédibilité au niveau des ventes de Heart, qui était un groupe, comme on l'avait dit, charnière, qui a donné lieu à la naissance des grands noms du rock progressif, quoique progressif c'est un bien grand mot, plutôt de rock 70s, qui étaient les Spooky Toos. Et puis la dernière anecdote, c'est que la magnifique pochette avait été conçue par le collectif qui s'appelle Apshash, qui s'appelait Apshash et qui était le véhicule pour les deux artistes qui étaient Michael English et Nigel Weymouth, qui gravitaient autour du Londres psychédélique, et qui, je crois qu'il y en avait un des deux aussi qui avait ouvert une boutique de vêtements qui était du côté de Covent Garden et qui s'appelait Granny Take a Trip. Donc voilà tout un microcosme qui avait pris racine dans le long des années 60. Blossom Toes, un autre grand nom de l'underground anglais, qui en 67, alors eux, ils n'étaient absolument pas néophytes, ils avaient incarné plusieurs, on va dire, années sur différents noms de groupes. L'évolution de la pop anglo-saxonne, ils étaient partis bien entendu du rhythm and blues des Mods, puisqu'ils avaient débuté du côté de Paris, et oui, bien qu'ils soient anglais, ils avaient migré à Paris sous le nom de Ingos. Et en 66-67, Brian Godding, comment il s'appelait, c'est écrit tellement petit dans les livrets que je n'arrivais plus à prononcer, puis déchiffrer surtout le nom des artistes. Voilà, Brian Godding et Jim Gregan, qui étaient un petit peu les maîtres en pensée de cette aventure sonore, regagnent Londres et font la connaissance de l'impresario et producteur des Yardbirds, qui était à l'époque Giorgio Gomelski. Je crois qu'aussi gérait la salle de concert qui s'appelait le Speakeasy, qui voyait bien entendu les grandes têtes d'affiche de l'époque défiler sur scène, et qui leur propose justement, via son label Marmalade, de produire un album. Alors un petit peu à contre-courant de ce que pouvait proposer la pop psychédélique. Là, on est plus sur un registre de pop psych, à savoir, c'est une autre variante, une musique très orchestrée qui s'apparente plus à de la sunshine pop, mais version anglaise, avec une prédominance, une influence prédominante venue des Kinks. On va écouter de cet album qui s'appelle We Are Ever So Clean. Alors, bien évidemment, c'était beaucoup trop arrangé pour être viable sur scène, c'est-à-dire qu'il Gomelski avait loué les services de musiciens professionnels pour habiller la pop de Blossom Toes. Donc il y avait des cordes, des cuivres, un peu tout, et puis surtout des histoires de théières et puis de vieilles sorcières anglaises. Et on va écouter What It's For avec sa mélodie tout en délicatesse et puis son martèlement clochette, vous allez voir. On a l'impression d'être dans une course contre la montre. What It's For de Blossom Toes. Et puis derrière, on enchaînera avec quelque chose qui sonne beaucoup plus, on va dire, contemporain, qui était l'unique album de trois grands noms des studios de Londres, à savoir Mike Bobak, Jim Malone et puis Jones. Jim Malone qui était un des grands noms du studio Morgantown, et au travers de leur unique album qui était sorti en 70, préfigure selon moi un petit peu le trip-hop des années 90.
But I loved her. just it has slipped your mind. This record is electrically recorded. Electrically.
What's it for? This need for loving that once more is whispering, unlock the door and let someone come through to find the sip of love I leave you behind. In loving you, I'm sure of quite what is true. Let that all go. I tell myself, what's it for? And close the door, I answer, why do I question every thought I make? What's it for? The mere existence of a door is something to be grateful for. And after all, what can I do but hope what I this time, as I feel now, I wonder how, what's it for, existed, and open doors resisted, so I won't question all of the love I make, what's it for? Existence of a door is something to be grateful for. And after all, what can I do but hope what I call love is true? As I feel now, no asking questions this time. So I won't question all of
Mauve Light, un projet de trois musiciens de studio et de producteurs qui étaient Bobak, John Bobak, Jones et Malone, Wilson Malone, qui était le maître, on va dire, du groupe de pop psy qui était les Orange Bicycle. On parlera dans l'émission qui traitera les O dans quelques mois, puisque je me suis attelé à la tâche de vous parler du rock psychédélique tout au long de cette saison. Nous allons donc par émission traiter d'une lettre ou d'un groupe en particulier. Et là, nous sommes dans les B avec un jeune homme qui avait à peine 18 ans et qui avait tenté sa chance du côté de Londres avec dans sa valise 12 chansons qui allaient donner lieu à l'album Song qui allait sorti chez Polydor en 69. Et pour la petite histoire, il avait été accompagné par les musiciens de Fleur de Lys, qui est un autre grand nom du freak beat anglais. Les Fleurs de Lys qui resteront à jamais dans l'imaginaire collectif comme les grands, on va dire, pourvoyeurs d'un freak beat sauvage avec des éclairs de génie, notamment la cover qu'ils avaient sortie du Circle des Who, une des grosses références du label Immediate. Mais pour l'heure, en 69, John Bromley est accompagné par le groupe de Gordon Haskells. Et on va écouter I'm Gonna Love You Till I Die. Voilà, c'est carrément plus pop, avec justement les éclairs de guitare, propres au groupe des Fleurs de Lys. Vous allez entendre. Et puis derrière, on enchaînera avec un second couteau qui était les... Comment il s'appelait ? C'était... Bulldog Breed, un autre grand groupe dans lequel avait été passé un excellent musicien qui était Pete Danton et Keith Cross, qui allait donner lieu au groupe, on va dire, lui aussi grandiose, mais capable de sortir un unique album qui était T2. Voilà, Bulldog Breed et puis John Bromley.
Soul, and your lips can warm me deep. Ain't no place I can't go. We'll be right back.
Bulldog Breed avec leur album Made in England qui clôt cette première émission consacrée à la pop et au rock psychédélique des années 60 anglaise. On va se quitter avec un extrait d'une bande originale de film, une fois n'est pas coutume, Bethesda. Pour la double raison, c'est un film qui était sorti en 68, une espèce de comédie drivée par Dudley Moore et puis Peter Cook, qui étaient deux comiques à l'époque. Et ce film avait la double particularité d'être au même titre que The Junction ou alors d'autres films de la période comme un Polaroid des mœurs de l'époque où vous pouviez voir justement des scènes en temps réel. Dans le Londres des années 60, Bethesda, voilà, ça c'est le nom du méfait, une bande originale de film sortie en 68. Ciao, bye, dans un mois pour la deuxième partie de cette série d'émissions consacrée au rock et à la pop psychédélique anglaise.
And roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.